Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR présentée aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.
La peste dans le Beaujolais et le Forêt au XVIIe siècle. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui dans ce studio le célèbre épidémiologiste Didier Ragout, natif de Saint-Bonnet-le-Troncy, qui a bien voulu nous parler de l'épidémie de peste qui frappe le Beaujolais et le Forêt au XVIIe siècle. Professeur,
bonjour.
Que pouvez-vous nous
dire? Merci de m'inviter.
Je vous en prie, c'est avec plaisir. Que pouvez-vous nous dire de ce fléau?
D'abord, que la peste est un horrible fléau. Rien ni personne ne parvenait à museler son expansion. Aucune barrière, aucun remède n'était capable de l'enrayer. Ces lignes que je cite là sont extraites de l'ouvrage de référence de Jean Canard. Ce qui ne veut pas dire que la peste arrivait par les oiseaux. Les pestes en Beaujolais, Forêt, Jarret et Lyonnais du XIVe au XVIIIe siècle témoignent de l'ampleur de la catastrophe. Dès 571, par exemple, venue d'Égypte, la peste atteint Lyon et sa région. Celle des années 1347-1353, dite « peste noire », provoque la mort de 25 millions d'Européens et se manifeste à nouveau au XVIIe siècle pour se propager dans le Forêt, le Beaujolais, en suivant les principaux axes de communication. En provenance d'Italie, par les Alpes, elle frappe à nouveau Lyon en juillet 1628. Donc on le voit, c'est à répétition. Et elle touche à nouveau très vite le Forêt où sa présence est constatée grâce aux registres paroissiaux à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Saint-Bonnet-le-Château, Montbrison, Feur, Noirétable, Roanne. Mais aussi, suivant le grand chemin royal, le Beaujolais par Tarare, Amplepuis, Saint-Jean-la-Bussière, Saint-Symphorien-de-Lay, Régny, Péreux, Villefranche, Charlieu.
Très bien. Mais dites-moi, connaît-on les causes de cette catastrophe? Cause évoquée évidemment par les historiens de cette époque.
Non, en fait, c'est pas facile, parce qu'un article de l'encyclopédie de 1765 précise que les causes de la maladie sont totalement inconnues. Cependant, au XVIIe siècle, les historiens recensent trois sources principales. Les causes astrologiques, le vent aurait répandu sur Terre des miasmes venus de Mars, Jupiter ou Saturne, les éclipses ou la conjonction de planètes pouvant amplifier le phénomène. Là, ce sont peut-être les plus pratiques et pragmatiques. Des causes religieuses, Dieu aurait puni les hommes pour leurs péchés, les carnavals, manifestations festives, l'esprit de jouissance ayant attiré la punition divine. Et puis, quand même, le principal serait le manque d'hygiène responsable de la foudroyante propagation de la maladie. À 1628, à Saint-Étienne, l'épidémie débute chez des cordonniers, réputés pour la malpropreté de leur boutique. L'achat de vieux habits infectés par les puces, en provenance de Lyon, aurait les mêmes résultats. C'est pourquoi le fléau s'attaque principalement aux quartiers les plus misérables, où pullulent les rats. La vente d'un veau infecté par un boucher de Villefranche aurait, en 1629, contaminé Chirouble. Des cours, des rues, des traboules sont restés plusieurs jours jonchés de cadavres, faute de trouver des volontaires pour les enterrer. La fuite des médecins, enfin, et des apothicaires n'a fait qu'amplifier la diffusion du mal.
Entendu. Mais est-ce que ces causes ont des remèdes ou des solutions?
Alors, là, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des solutions reposent sur le confinement ou l'isolement. Alors, ne prononçons pas le mot confinement. C'est simplement d'obliger les gens à rester chez eux. La plupart des maisons touchées par l'épidémie sont fermées, leurs habitants plus ou moins bien relogés à l'extérieur des agglomérations. À Saint-Étienne, les consuls font construire environ 500 loges, des petites cabanes en bois, hors la ville, pour y abriter les pestiférés. À Saint-Bonnet-le-Château, les religieuses du couvent des Capucins sont mises en quarantaine dans les jardins. Vous me direz, elles étaient déjà cloîtrées. Les pauvres, les vagabonds, les étrangers, mais aussi les juifs, sont chassés des cités délaissées par les plus riches pour se réfugier dans leur résidence secondaire à la campagne. À Péreux, le juge de la Châtellenie décide que ceux qui avaient soigné les pestiférés seraient consignés dans un édifice avec défense d'en sortir. Ensuite, il y a la désinfection. Dans le Forêt, les autorités font appel à des parfumeurs venus d'Auvergne pour désinfecter les villes. Des galoupins, véritables garçons infirmiers, sont recrutés pour enlever les cadavres. Et en 1628, à Saint-Étienne, un bureau de santé se réunissait chaque semaine à l'hôtel de ville, une sorte de comité de défense, pour établir une règlement précisant les dates de fermeture des cabarets ou les modalités pour interdire la vente des vieux vêtements. Et puis, il y a encore les médicaments, parce qu'à Rouen, les médecins suggéraient d'inciser les bubons, d'où le nom de peste bubonique, et d'y appliquer la peau d'un crapaud selon cette méthode. Il faut prendre un crapaud, lui laisser perdre son venin et sa bave, et une fois sec, le poser sur la tumeur, qu'il aspirera de sorte que l'animal retrouve sa taille normale. On peut aussi utiliser le cataplasme d'oignon et de vinaigre avec des succès étonnants. Et puis, enfin, il y a aussi le recours à la religion. En 1629, dans le Beaujolais et le Forêt, furent recensés plus de 200 processions destinées à fuir le fléau. Le nombre des chapelles dédiées à Saint-Roch, qui s'était beaucoup dévoué à la cause des pestiférés de Rome, se multiplie. À Amplepuis, au cimetière, à Rigny, à Saint-Marcel-de-Féline, à Bussière, à Renaison, à Saint-Anne-le-Châtel, à Violet, des sociétés placées sous le patronage du saint ont survécu à Contence ou à Néron jusqu'au début du XXe siècle.
Comme quoi, rien de nouveau sous le soleil.
Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Claude Janin et Noël Goutenoir.